France Musique.
Qu'est-ce que l'idée musicale beethovenienne ? Bouleversement, révélation. Ce sont des moments décisifs dans le processus créateur de Beethoven. Ils sont bien souvent la raison d'être de l'œuvre, par-delà l'intelligence et la force d'abstraction de l'écriture et des formes beethoveniennes. On pourrait considérer que ces raisons d'être de l'œuvre seraient les idées musicales de l'œuvre et parfois la vraie thématique beethovenienne. Bouleversement, révélation. Il y a eu souvent dans le processus créateur beethovenien un face-à-face avec une impasse musicale, puis une trouvaille visionnaire, un retournement de situation qui créait un nouvel espace et une mutation révolutionnaire et avant-gardiste du langage musical. Le côté visionnaire de Beethoven m'a toujours évoqué Bonaparte, vainqueur au pont d'Arcole. Dans le film d'Abel Gance, on voit le jeune Bonaparte réveiller les vieux généraux du XVIIIe siècle qui dorment face au pont d'Arcole. Mutation révolutionnaire et avant-gardiste du langage musical, surtout dans les débuts de la vie du créateur. C'est cette dimension que je tenterai de vous faire entendre aujourd'hui. Certes, ces retournements stratégiques de l'écriture se situent dans la percée du système. La consultation de certains manuscrits montre souvent des ratures et une notation accidentée à ces instants névralgiques et secrets de l'œuvre. Il va sans dire que ces percées du système et du langage musical ont des conséquences déterminantes dans l'interprétation, qui se doit alors de ne pas ramener aux symétries apparentes du classicisme l'énergie presque insolente de la découverte et de la percée du système.
Thank you.
entendre la sonate opus 2 numéro 1, 1795, dédiée à Joseph Haydn. Et j'ai eu l'impérieuse audace de commencer cette série d'émissions avec le début de l'intégrale que j'avais fait de cette sonate il y a déjà quelques décennies. Pourquoi j'ai choisi cette sonate pour commencer l'émission? C'est le choc, le premier choc que j'ai ressenti avec Beethoven, et il m'a semblé l'entrée même dans son langage et dans ce qui a été comme une provocation. Je vais vous faire entendre le thème. Étrange point d'orgue. Ah, que s'est-il passé? Ce qu'il s'est passé, c'est que Beethoven a senti l'impasse. Il a senti l'impasse après l'antécédent inconséquent et impossible. Effectivement, qu'est-ce qu'il fait? Il reste la trace du XVIIIe siècle, la réponse inspirée par la structure fuguée en do mineur. Cette révélation, ici, que le conséquent serait une sorte de leurre, un leurre de la réponse du sujet, a été comme un événement, quelque chose qui rompait le processus de la sonate, du modèle, vers un au-delà du système. Et je n'ai jamais pu imaginer autrement la scène que le dédicataire, Haydn, recevoir ce point d'orgue comme une sorte de gifle, comme une gifle de l'élève qui n'est plus élève et qui est comme Bonaparte, qui découvre brusquement, quand les généraux dorment, que le chemin de la victoire de la forme, elle est là, dans ce point d'orgue. Point d'orgue en même temps qui est étrange, parce qu'il m'a parfois semblé être une sorte de silence presque lacanien. Silence pour écouter la dominante qui devient mineure. Choc harmonique en même temps. Et pour moi, en fin de compte, le second événement de cette sonate découle de cet endroit-là. Parce qu'il prépare en réalité une réexposition qui, elle, dans la tradition, sera vraiment le conséquent. Donc le leurre est rompu. Je le rejoue. Là, nous rejoignons effectivement la forme sonate. Cette rupture est typique pour moi. J'ai choisi un autre exemple parmi de nombreux. C'est dans la sonate opus 2, numéro 3. Alors, je vais expliquer où est l'impasse beethovenienne. L'impasse beethovenienne, elle est dans la réexposition. C'est-à-dire que dans la réexposition, nous retrouvons le thème. Normalement, ici, Beethoven s'arrête. Il s'arrête à la mesure 146 qu'aurait fait un être normal, je ne sais pas. Mais là, brusquement, il y a une espèce de mémoire, d'ailleurs, de Mozart et de la flûte enchantée. La syncope, qui est travaillée formellement dans la sonate, devient ici un jeu d'octave. Hein. Cette découverte de quelque chose qui n'a pas de fonction et qui est simplement syncopé, qui va permettre d'aller au-delà du système, au-delà de la reprise, de la réexposition, est un des secrets névralgiques de cette sonate opus 2 numéro 3. Je ne m'attarderai pas sur tout le développement formel. Bien entendu, c'est évident que ce système au-delà va encore apparaître à la mesure 218 avec la cadence. j'ai tendance à considérer que sans cette microstructure secrète, cette cadence elle-même et la raison d'être de mouvement n'auraient pas été possibles. Écoutons la sonate opus 2 numéro 3 dans une sublime version de Wilhelm Kempff.
Thank you.
venons d'entendre cette sonate opus 2 numéro 3 dans la version de Wilhelm Kempff.
Thank you.
Nous avons entendu l'ouverture Coriolan par l'Orchestre philharmonique de Vienne sous la direction de Claudio Abbado. Je vais, dans cette ouverture, isoler 4-5 mesures. Bien entendu, ce n'est pas le thème, ce n'est pas le deuxième thème. C'est un passage particulier. C'est un passage qui a dû faire souffrir Beethoven et qui a permis une découverte. Regardez le passage. Bon, d'accord. Ensuite. Redoutable passage parce que c'est ce qu'on appelle une sorte de marche harmonique. Et la marche harmonique, dans la sagesse baroque, fait qu'on ne doit pas faire plus de 3 paliers. Et Bach et toute l'historique du XVIIIe siècle le savaient. Comment sortir de ce passage-là? La découverte harmonique, ce moment-là, névralgique, eh bien, c'est un moment d'ouverture. Là, s'annonce, dans la tradition de Jean-Sébastien Bach, que nous verrons à une autre émission, ce miracle, véritablement, cette clé du merveilleux harmonique. La sonate opus 31, numéro 1, en sol majeur, celle qui commence comme ça. Cet élément thématique, quand je parle de l'insolence beethovenienne, évidemment, c'est une des sonates, un peu comme le choc du silence qui a été un peu cette gifle mentale à Haydn et à l'héritage, me frappait dans cette sonate et je me suis longtemps interrogé sur la problématique, je dirais, qui s'est posée à Beethoven en découvrant ce thème. Et alors, si vous permettez de me suivre quelques secondes, je vais essayer de définir la problématique. Alors là, on est vraiment dans le thème, on n'est pas dans l'instant, on est dans le thème. Ce thème, évidemment, a une découverte en elle-même, c'est cette structure qu'on appelle vulgairement la boiteuse, c'est très agaçant ce rythme. Ce qui est surtout intéressant dans ce rythme, c'est le fait qu'il ponctue le troisième temps. Puis on retrouve un autre élément de cette structure thématique dont je parlerai samedi prochain, qui est la notion d'un thème qui se déploie harmoniquement. Si vous regardez les carrures, 1, 2, 1, on est dans une structure de carrure irrégulière. Et ces structures de carrure irrégulière pourraient laisser entendre à un général du XVIIIe siècle devant le pont d'Arcole, qu'on va garder la symétrie. Voilà ce qu'aurait fait un autre, un petit maître. 1, 2. Mais où je vais maintenant? Je suis arrivé de la tonique à la dominante. Ah, je suis rassuré, c'est ce que l'antécédent. Beethoven ne va garder qu'une mesure. Et c'est-à-dire qu'il rapproche une modulation qui est un ton en dessous. Il la rapproche comme un poète qui travaille sur une asymétrie de la carrure. Et tout le principe, y compris les modulations qui vont arriver dans la sonate, vient de ce premier choc et encore un autre secret qui est l'héritage du XVIIIe siècle, qui est le fait que Beethoven découvre dans cette écriture une tradition du forte piano qu'on a dans l'imagerie du XVIIIe siècle, mais il note les nuances et l'opposition entre le piano et le forte. Et quand il va réexposer plus tard, il va utiliser à partir de là la pause ou le silence de la réexposition. Et cet élément-là provoque cet effet d'insolence, cette irrégularité de la carrure qui est une découverte, qui est une trouvaille, qui n'est pas le thème, mais qui est l'asymétrie dans le thème. Le travail de cette asymétrie, qui est une résolution du problème entre l'antécédent et le conséquent, c'est l'énergie première de l'interprétation de cette sonate. Je vous propose de l'écouter dans la version de Wilhelm Kempff.
Thank you.
La sonate opus 31 numéro 1 a été interprétée par Wilhelm Kempff. Je voudrais maintenant terminer l'émission en évoquant bien sûr quelque chose qui appartient en fin de compte à un stade plus lointain dans l'œuvre de Beethoven, toujours à cette question de l'impasse. Là, dans la troisième symphonie, dans ce premier mouvement, la structure de la cadence parfaite de la réexposition. Alors, cette question n'aurait pas d'intérêt si il n'y avait pas derrière cette question de la cadence parfaite la question de l'exposition du thème. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est exposer un thème? Et là encore, c'est une problématique qu'on trouve dans la composition en général, mais qui explique les deux accords initiaux de la symphonie. C'est-à-dire, le thème ne pouvait pas commencer. Il commence par ça. Et cette nécessité d'affirmer par deux grands accords initiaux l'apparition du thème, par une affirmation, se repose dans la réexposition. Et c'est la raison pour laquelle Beethoven superpose l'accord de septième de dominante et l'accord de tonique. C'est-à-dire, en fin de compte, vous avez ça. Et ça devient évidemment. Avec d'ailleurs la répétition deux fois l'accord de septième de dominante. Encore un moment très névralgique pour un interprète, d'ailleurs comme pour un compositeur, mais c'est relativement secret. C'est quelque chose qui n'est pas en avant de la forme et que se situe comme une causalité de la forme. Nous allons écouter cette symphonie dans la version, je dirais, presque post-romantique, pré-classique de Toscanini avec l'orchestre NBC. C'est-à-dire, il y a des intuitions dans l'interprétation de Toscanini qui m'ont beaucoup marqué pour moi l'intégrale des 32 sonates de Beethoven, dans justement ces pulsions qui viennent de ces causalités secrètes d'une forme. Nous rentrerons plus dans les prochaines émissions sur des faits objectifs et moins pseudo-latéraux, mais écoutons cette version de Toscanini de la troisième symphonie, le premier mouvement. Thank you. Entendu la version de Toscanini avec l'orchestre NBC qu'on n'écoute pas assez, je pense, aujourd'hui. Toscanini, l'orchestre NBC, la troisième symphonie, premier mouvement. Merci à Michel Gassic pour la prise de son. Cette émission a été réalisée par Jean-Charles Dieval. Et je vous dis à samedi prochain à 16h, alors avec un titre peut-être énigmatique, mais où je vous ferai rentrer dans le son. J'appelle ça le piano espace. Il est 17h sur France Musique, l'heure de retrouver Comme si vous y étiez par Jérémy Rousseau.
À réécouter sur francemusique.fr.